Avant de commencer, j'aimerais ça prendre un petit moment pour dresser un portrait de c'est quoi le réseau de santé publique au Québec. Je pense que c'est important de le situer parce que c'est un peu nébuleux. J'ai parlé à des gens, qu'est-ce que tu fais au ministère? Ça, c'est la question qui tue, qu'on ne va pas tellement répondre parce qu'elle n'est pas facile à répondre. Mais en fait, je pense que c'est important de situer qu'au ministère, il y a une direction générale de la santé publique où je travaille, puis il y a une direction de la promotion de la santé et de la prévention. On est en interface avec l'Institut national de santé publique. Il y a des représentants, des collègues à nous dans la salle. Le rôle de l'Institut est beaucoup d'apporter un soutien conseil au ministère dans les décisions, par le développement de connaissances, le transfert de connaissances aussi dans le réseau et au ministère. Donc, c'est un soutien qui est très important. Puis, dans le réseau, avant, on avait des agences de santé avec des directions régionales de santé publique. On a toujours des directions de santé publique qui sont au sein des gros CICIUS, qui ont une fonction beaucoup de planification, d'organisation des services de santé publique à l'échelle d'un territoire. Je ne sais pas si ça a de l'allure ce que je vous dis là, mais tout ça, c'est un réseau qui travaille en collaboration, le ministère étant là pour donner des orientations, faire le suivi d'implantation, puis soutenir aussi les projets d'évaluation pour s'assurer qu'on est bien aligné. Alors, je pensais que c'était quand même une précision assez importante. Le plan stratégique, je m'excuse pour le focus, 2015-2020. Chaque ministère au Québec doit développer un plan stratégique. C'est ses grandes priorités pour les 5 prochaines années, qui est déposé à l'Assemblée nationale, adopté, puis pour lequel il y a une reddition de compte annuelle. On a maintenant, dans le plan stratégique du ministère, un axe qui est sur la prévention, en accent sur favoriser les saines habitudes de vie. La prévention des problèmes de santé. Ce qui est un défi, puis là, je vais faire un petit peu de parallèle avec le développement des connaissances aussi, c'est que quand on inscrit un objectif dans le plan stratégique, il faut être capable de mesurer son évolution. Et il y a quand même un défi en promotion de saines habitudes de vie où on va aller mesurer le tabagisme, la proportion de fumeurs, on a une cible, qui d'ici 2020 atteint 16 %. On est actuellement, je pense, à 20,9 très exactement, de fumeurs chez les 12 ans et plus. 12 ans et plus parce que, tout simplement, ce sont les données d'enquête dont on dispose avec l'enquête de santé sur les collectivités canadiennes. C'est quand même un enjeu, puis j'y arrive dans quelques instants, la disponibilité de données pour alimenter la décision. Parce que, en tout cas, je vais passer les autres cibles. On a la consommation de fruits et légumes 5 fois par jour par les 12 ans et plus. On cible 50 %, on est actuellement à 47 %. Et pour le niveau d'activité physique, durant les loisirs et les transports, on a une cible de 51, on se situe à 47 %. Ce que je veux dire ici, c'est que quand on arrive pour inscrire un indicateur, il faut être capable de le mesurer, c'est une condition. Et à tous les ans, on fait une reddition de compte, donc on est à regarder l'indicateur. Est-ce qu'en un an, on a une grande modification d'échelle populationnelle de ces indicateurs-là? C'est très difficile. Et donc, quand on évalue la performance pure et dure de la prévention par des indicateurs comme ceux-ci, on est toujours à justifier que les changements de comportement au sein d'une population, ça prend du temps. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir des indicateurs intermédiaires qu'on pourrait suivre dans le temps et rendre justice aux efforts de prévention qui prennent du temps à s'actualiser, puis c'est un grand défi pour dans un système où les décideurs sont avec nous pour peut-être 4 ans, renouvelables selon le bon vouloir des électeurs. Alors, c'est quand même un enjeu, mais toutefois, c'est quand même une bonne nouvelle, ça c'est le coup, parce que quand même, ça donne une priorité à des activités en prévention sur des saines habitudes de vie dans tout le réseau. Et nous, ça nous permet de savoir ce qui est fait dans toutes les régions du Québec parce qu'on a une reddition de compte annuelle. Donc, c'est quand même très positif. J'arrive au programme national de santé publique. Vous savez, la loi de santé publique prescrit que le ministre doit déposer un programme de santé publique et le mettre à jour, le réviser périodiquement. Donc, le premier programme a été adopté en 2003, mis à jour en 2008. Et là, on est à la première grande révision, donc la deuxième cuvée d'un programme de santé publique qui s'échelonne pour une période de 10 ans. Pour dire, c'est un vaste univers, il y a 4 axes d'intervention. Ça ressemble à ça. Il est disponible en ligne. Vous savez que je le feuillette, j'ai mes repères. On a développé le programme de santé publique en tenant compte de l'expérience du premier, mais c'est un programme avec une couleur un peu différente, vraiment axé sur beaucoup d'intégration, de travailler moins en silo. Et vous allez voir qu'en promotion de la santé, il y a quand même des impacts importants. Et puis, je vais venir sur l'offre de services de santé publique dans quelques instants. En fait, le programme, il occupe une place importante pour les gens qui travaillent en santé publique, pour les collaborateurs aussi, parce qu'il définit l'offre de service pour une action sur les déterminants de la santé. C'est pas mineur. L'offre de service, toutefois, quand on est dans un système de santé, l'offre de service est souvent, dans l'imaginaire du Québécois, un service direct à la population, pour faire le lien avec Rana. Mais il y a des services de santé publique qui sont aussi des services où on est en accompagnement, on est en soutien, on est en développement des connaissances, on est en établissement de liens intersectoriels avec d'autres ministères. M. Bérand, je crois, mentionnait, c'est notre quotidien, notre travail avec d'autres ministères à l'échelle du ministère de la Santé pour des environnements favorables ou à l'échelle régionale avec d'autres partenaires, des municipalités. Donc, ça définit une offre de service, mais l'offre de service prend une couleur un peu différente parce qu'on est dans un autre univers. Et puis, il contribue aussi à positionner, à structurer, puis à faire en sorte que l'action soit plus performante. Parce qu'on va tous dans le même sens, sur des objets communs. Puis, il y a quand même une majeure sur laquelle je vais insister dans quelques instants. Oui, on vise à améliorer la santé de la population, à la maintenir aussi, mais à réduire les inégalités sociales de santé, c'est majeur. Et puis, on peut toujours. C'est plus facile de changer les comportements des gens qui se font déjà bien que d'aller modifier les comportements de ceux qui sont encore plus vulnérables. Puis en favorisant les plus aisés, on exacerbe les écarts. Je crois que c'est un grand enjeu qu'il faut adresser au niveau de l'intervention, au niveau du développement des connaissances. On a vraiment à développer cette expertise-là au Québec, je crois. Il y a des travaux, mais il faut poursuivre. Je crois que si on avait toutes ces lunettes-là dans nos interventions et puis dans nos travaux de recherche, ça nous mènerait très loin au Québec. Les gains de santé sont vraiment répartis de façon inégale au sein de la population. On a aussi à convaincre, à sensibiliser la population à ce sujet-là. C'est pas mineur. Plus on est pauvre, plus on risque d'être malade, mourir plus jeune, puis plus longtemps on est en déprivation économique, plus les effets vont être importants. Les disparités, bon, c'est souvent le revenu, la scolarité, le logement. Donc, les gens qui sont moins bien dans un cadre de vie moins favorable, ils n'ont comme pas de chance déjà en partant. Ça part de la petite enfance et même au sein durant la gestation. Donc, quand on commence à regarder les écarts, ils sont réels au niveau des habitudes de vie également, donc au niveau des déterminants. On a 88% de plus de fumeurs au quotidien parmi les populations plus vulnérables, plus d'obèses, des gens qui se perçoivent ne se percevant pas en bonne santé, c'est presque c'est la grande majorité, c'est près de 100%. 20% d'entre eux vont être atteints de deux maladies chroniques par rapport à 7% parmi les plus aisés. La mortalité est deux fois plus élevée chez les 65 ans, chez les moins de 65 ans. Puis, si on est vulnérable au plan socio-économique et qu'on est un homme, on peut espérer vivre 8 ans de moins. On est au Québec, on n'est pas dans un pays en voie de développement. Et chez les femmes, on a, je sais pas pourquoi, une petite protection peut-être, mais 4 ans de moins. Le portrait n'est pas très rose. Je vais sauter aux pistes de recherche, puis ne sont pas exhaustives, vraiment pas, là, mais en tout cas, c'est la pensée qu'on a eue un peu dans l'équipe. Il y en a. Moi, je pense qu'en préambule, j'insisterai beaucoup sur. J'en ai discuté avec Jason ce matin, les outcomes. Là. Quand on mesure uniquement le comportement, c'est bien, il faut le mesurer, il faut le continuer à mesurer à long terme. Mais à court terme, quand on rapporte à des décideurs nos succès, c'est un défi qu'on a au ministère d'aller dire, bon, qu'est-ce que ça donne, telle intervention, si ça ne change pas le comportement, est-ce que, bon, si on mesure les environnements, les milieux de vie, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'on peut en témoigner? Quels seraient d'autres bons proxys pour dire que les choses s'améliorent? Puis, aussi, en transversal, je l'ai mentionné, les inégalités sociales de santé, c'est majeur. Quelles sont les interventions, les politiques publiques qui vont avoir le plus d'impact pour réduire le nombre, mais aussi pour changer les habitudes de vie de ces populations-là? On a développé des connaissances, je crois, c'est très important, la littératie aussi. À l'égard du mode de vie physiquement actif, bon, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne le goût aux jeunes de bouger, mais au quotidien? C'est bien une activité physique encadrée, mais un mode de vie physiquement actif, c'est bouger tous les jours, dans tous les contextes. Comment on fait pour créer cette culture de bouger auprès des jeunes? La sédentarité chez les jeunes, chez les adultes, les travailleurs en usine, bon, peut-être que ceux sont plus actifs, mais nous, on a des tours à bureau, puis on peut être des heures assises J'ai beaucoup aimé la standing ovation, mais on n'en fait pas beaucoup dans nos bureaux, les standing ovations. Mais on devrait implanter justement peut-être d'autres façons de travailler en étant moins sédentaire. Il y aurait quelque chose à créer. Il y a des expériences internationales intéressantes. Bon, bien sûr, on va mettre en place différentes interventions pour réduire la consommation de boissons sucrées, lesquelles vont être les plus porteuses auprès des groupes défavorisés qu'il ne faut pas oublier, qui sont les plus grands consommateurs. Et la documentation de l'utilisation de ce qu'on appelle les PSMA, produits services moyens vieillissants, particulièrement chez les hommes. Toujours le tabagisme, on a parlé des jeunes adultes, 18-34 ans. C'est quoi le profil? Qu'est-ce qui les stimulerait à arrêter de fumer? C'est des récalcitrants, c'est difficile de la cessation tabagique pour ces personnes-là. Quel type de soutien aurait-il besoin? L'utilisation de la cigarette électronique, est-ce que, ça peut aider dans un cadre où on veut cesser de fumer? On a vraiment un enjeu de documentation autour de la cigarette électronique au Québec. Et puis, transfert de connaissances. J'insiste beaucoup aussi, Rana l'a soulevé, faites-nous part des travaux. Dialoguons, on a besoin, puis on a besoin en cours de route aussi. Le décideur, quand il veut une donnée, il y avait là. Puis des fois, on ne l'a pas sous les mains, mais si au moins, on a quelque chose qui nous nourrit. On est toujours à l'affût. Nous, on est beaucoup en lien avec différents chercheurs qui sont dans la pièce, puis on veut continuer à interagir, mais les rapports qui soient le plus exécutifs possible, mais que le rapport au complet soit aussi disponible. On est souvent dans le feu de l'action, puis si les rapports sont déjà en formule exécutif, c'est certainement plus facile. Des activités de transfert de connaissances, il y en a d'organiser au ministère, il y en a d'organiser aussi en santé publique. On a les journées annuelles de santé publique que vous connaissez sûrement. Puis, différentes formules, je pense qu'on a exploré les différentes formules de transfert de connaissances, on parle de webinaires, mais il pourrait y avoir d'autres formules plus interactives qui seraient intéressantes aussi pour favoriser le dialogue.